Swing Time 2026. Swing Time 2026 sur Swing FM 101.2. En DAB+ et sur le net, la radio du Art Club de Limoges. Une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier. Bonjour Alain.
Bonjour Willy, bonjour à toutes et à tous.
Au plaisir de se retrouver, bonjour Dominique.
Et bonjour mon cher Willy, et salut Alain.
Tu es avec nous aujourd'hui, formidable.
Bonjour Dominique.
Et bonjour à tout le monde mon cher
Bien
Alain.
Sûr, ben oui.
Alors qu'est-ce que tout nous a préparé aujourd'hui Alain?
Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de Tintin.
Eh bien.
Le titre de l'émission, c'est le jazz selon Tintin. Ça, c'est surprenant. Hein.
Tout à fait.
Et il y a un sous-titre, comme toujours. Et le sous-titre, évidemment, c'est une musique pour les jeunes de 7 à 77 ans.
Ah, ben c'est.
Et si jamais on dépasse.
C'est à peu près pour nous.
Alors, oui. Si on dépasse.
Si on dépasse un peu, c'est valable. C'est valable.
Ah bon, d'accord.
C'est valable. Oui, oui, on peut continuer. Ça peut être avant, ça peut être après, finalement. Oui, parce qu'on ne sait jamais. On a de jeunes auditeurs, mais on a aussi parfois des auditeurs un tout petit peu plus âgés. Voilà. Hein? Bon, peut-être qu'on en fait partie, je ne sais pas. Enfin, ça reste une musique pour les jeunes de 7 à 77 ans. Eh bien, figurez-vous qu'en faisant un petit peu de classement dans les archives personnelles, dans mon bureau, ben, j'ai retrouvé un journal des jeunes de 7 à 77 ans, c'est-à-dire un Tintin, daté du 9 août 1962. Et si on ne me croit pas, je pourrais envoyer une photocopie de la couverture. Elle est sur le bureau. Je le montre à tout le monde. Vous le voyez, ce Tintin?
Ah oui.
Oui, il le voit, Dominique.
Absolument. Tout le monde on le voit bien.
Et on a même Michel là-bas qui nous fait la technique. Eh bien, il le voit aussi. Hein. Il le voit, Michel. Il a confirmé. Il ne peut pas répondre. Il n'a pas de micro. Il est un peu loin. Il est au fond du studio. Eh bien... C'est un Tintin donc du 9 août 1962 et je l'ai feuilleté à nouveau évidemment et je l'avais conservé dans les archives jazz chez moi pour une raison simple parce que après les pages qui étaient consacrées à un roi de la mer Michel Ruiter de deux dessinateurs qui s'appelaient Dival et Rambaud qu'on a dû oublier après Chick Bill qui était dessiné et écrit par Tibet. Il y a plusieurs pages qui sont consacrées, je cite le titre, « Clé de la musique de jazz » et c'est signé d'un certain Roland Masson. Et ça m'a donné l'idée de bâtir eh bien, un swing time sur Tintin et le jazz. Et à l'époque, on est en 1962, je vous rappelle, la grande majorité des jazzmen évoqués appartenaient encore à la belle famille du jazz authentique. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aurait les mêmes noms. Étant donné l'ampleur du sujet aussi, et ça m'a surpris, et comme ça part des instruments, et puis on cite après des musiciens qui correspondent aux instruments, eh bien il m'a fallu faire deux émissions, préparer deux émissions pour faire tout le tour de la question. Et mon propos aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, eh bien, ce sera de présenter ces artistes, de vérifier la pertinence de ce qui est écrit dans ce Tintin, mais en même temps, je vais vérifier aussi ce que dit un autre spécialiste patenté. Eh bien, c'est Hugues Panassier qui va m'aider. Et j'ai pris son dictionnaire du jazz qui était paru au milieu des années 50, donc pas très très loin en termes de temps, en termes de chronologie, de l'article de 1962. Et l'article de Tintin commençait par citer des batteurs. Et le premier des batteurs qui est cité... C'est Baby Lutz, et donc on va l'écouter au début de sa carrière au sein du Creole Jazz Band de King Oliver. On écoute « I'm going away to way off my mind » et on est à Richmond dans l'Indiana le 5 avril 1923, il y a plus d'un siècle. Hein. Thank you. Eh bien, Hugues Panassier disait de lui dans son dictionnaire du jazz, il emploie volontiers le woodblocks, le cowbell et autres petits instruments pour une raison simple d'ailleurs, n'est-ce pas Dominique, c'est qu'on ne pouvait pas enregistrer la batterie à l'époque.
Eh oui, à l'époque, elle était trop bruyante pour les studios d'enregistrement.
Ben oui, voilà. Mais du coup, on entend bien Baby Dotsy ici, c'était ça, voilà. C'était ça l'intérêt. Au second cornet, il y avait Louis Armstrong, puisque c'est l'orchestre de King Oliver. Au trombone, c'était Honoré Dutray. Et au piano, la petite nana qui fait les yeux doux à Louis Armstrong, c'est Lil Hardin. Autre fabuleux batteur, celui dont le nom est attaché à l'orchestre de Count Basie, c'est Joe Jones, bien évidemment, mais le voici à la tête d'un sextet de studio, donc sous son nom. On est en 1960 et il joue un thème classique de Gershwin, Liza, New York, 19 avril 1960. Ici, on a entendu également Harry Sweets Edison à la trompette, Jimmy Forrest qui était au ténor, Benny Green au trombone, le pianiste était Tommy Flanagan et à la contrebasse, Tommy Potter. Et dans la notice de ce LP, puisque c'était sorti sous forme de 30 cm 33 tours, Hugues Panassier remarque qu'il est, à propos de Joe Jones, qu'il est un des plus grands experts de la cymbale hi-hat, on l'a entendu hein, dans ce morceau, c'est-à-dire ce qu'on appelait aussi la cymbale Charleston, c'est-à-dire deux cymbales placées face à face et qu'on actionnait avec le pied. Voilà, donc c'était assez révélateur du style de Joe Jones. On passe au contrebassiste maintenant. Et parmi les contrebassistes cités, le premier qui est cité, c'est Oscar Pettiford, qui est un très bon contrebassiste. Et on va pouvoir l'apprécier, ce contrebassiste, en duo avec Duke Ellington dans Tiptoe Topic. Et c'est enregistré à New York le 28 mars 1946. Thank you. Panassier fait remarquer que sa sonorité, Oscar Petitfort évidemment, est admirablement pleine et il fournit au soliste un soutien d'une incomparable souplesse. Et Hugues Panassier note aussi que ce contrebassiste s'est inspiré de Jimmy Blanton, qui, soit dit en passant, n'est pas retenu dans le journal. Il est juste cité comme ça, je dirais. Mille sabords, ils l'ont oublié celui-là, ou ils ne l'ont pas bien mis en valeur, mais c'est comme ça. Autre contrebassiste sélectionné, un grand contrebassiste, Ray Brown, c'est un bon musicien, surtout à cette époque. Et le voici au sein d'un quartet dirigé par le violoniste Steve Smith avec Oscar Peterson au piano dans le classique ellingtonien It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, Hollywood, 7 mars 1957. Thank you. Eh bien, on a pu remarquer combien la contrebasse soutenait la ligne mélodique et participait au swing intense de l'interprétation. Alors, Hugues Panassier nous dit quoi sur ce grand contrebassiste? Il s'est inspiré de Jimmy Blanton, dont il a en partie la souplesse et la virtuosité. Alors, si dans l'article de Tintin, Jimmy Blanton n'est pas vraiment cité, mais juste évoqué, on en aura tout de même parlé dans cette émission. Et puis rassurez-vous, la semaine prochaine, dans l'émission numéro 2, je crois que j'ai trouvé un morceau dans lequel jouait Jimmy Blanton en duo avec Duke Ellington. Donc il faut attendre un petit peu. Nous allons passer au pianiste maintenant. Et notre journal des jeunes de 7 à 77 ans commence par le fameux pionnier du piano, The Originator of Jazz, celui qui a inventé le jazz, d'après lui évidemment, c'est tout simplement Jelly Roll Morton. Et le voici en solo, jouant magnifiquement le ragtime. Ça s'intitule Sporting House et c'est enregistré à Washington le 4 décembre 1939. C'est la fin de la carrière discographique de Jelly Roll. C'est le pianiste lui-même qui, à un moment donné, marquait le tempo avec le pied. Et on l'entendait. Pour Hugues Panassier, c'est un des plus importants musiciens. On ne peut pas dire le contraire. Deuxième pianiste proposé, Earlines. Et c'est sûr qu'il est un des artistes majeurs de l'histoire du jazz. Un pianiste qui a lui aussi inventé son propre style. Et écoutez-le en solo, dans une interprétation qui est considérée comme un de ses chefs-d'œuvre. C'est Blows in Thirds, des fois titré Coach and Blows, enregistré chez OK à Chicago le 11 décembre 1928. Thank you. pense Hugues Panassier? Ben, évidemment, beaucoup de bien. Et il écrit que ses solos comptent parmi les plus intrigants que le jazz ait donné lieu d'entendre. Et c'était la preuve fournie dans le morceau qu'on vient d'écouter. Je retiendrai un troisième pianiste, un musicien lui aussi formidable, qui a beaucoup joué en trio d'ailleurs, et il s'agit d'Art Tatum. Il grave en 1952 ce standard en le transformant en une pièce typiquement tatumesque, mais comme toujours, il réinventait les thèmes. Le classique qu'il va jouer, c'est Out of Nowhere. C'était enregistré à New York le 20 décembre 1952. Le trio de Tatum était composé d'Everick Barksdale à la guitare et de Slam Stewart, le contrebassiste chantant, à la contrebasse évidemment, puisque c'est le contrebassiste chantant. Je voudrais citer à nouveau Hugues Panassier à propos de Tatum. Ses dons d'invention ne sont pas moins prodigieux que sa virtuosité. On l'a vu, et on plutôt l'a entendu. Parmi les guitaristes retenus, notre journal note Teddy Bone, un excellent accompagnateur capable de jolis solos, comme de ce thème classique interprété par le fameux septet de Tommy Lanier de Sidney Bechet, c'est Jada, enregistré à New York le 28 novembre 1938. We'll be right back. Eh bien, il y avait Cliff Jackson au piano, Mez Mezro au ténor, et Sidney était en surimpression au début au soprano et à la fin à la clarinette. Hugues Panassier lui trouve à Teddy Bonn de grands dons d'invention. Donc c'est un beau compliment que Hugues fait à Teddy. Alors forcément, le natif de Belgique, je dis bien de Belgique, Django Reinhardt ne pouvait pas ne pas être nommé dans notre hebdomadaire belge, je signale, préféré. Alors il y a l'embarras du choix pour illustrer le génial manouche. J'ai pris au hasard ou presque le titre suivant, Swing Guitars, enregistré chez Gramophone à Paris le 15 octobre 1936. Chacun a reconnu évidemment le quintet du Yacht Club de France avec au violon Stéphane Grappelli. À la contrebasse, je signale, c'était Louis Vola. Et ce guitariste pour Hugues Panassier est un créateur d'une envergure extraordinaire. À propos des trompettistes maintenant, aucune hésitation, Louis Armstrong vire en tête évidemment. Remarque amusante du journal à propos de la trompette. Alors écoutez bien ce que disait Tintin. Auprès des lecteurs de 7 à 77 ans, peut-être plus auprès de ceux de 7 que de 77, c'est l'instrument idéal par excellence, mais il faut au moins 4 ans pour en jouer passablement, on est prévenu. Hein. Donc les jeunes de 7 à 77 ans savent à quoi s'en tenir. Mais je voudrais qu'on revienne au jazz avec ce fantastique Muggles par Louis Armstrong, Chicago, 7 décembre 1928. pose la question à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Est-ce qu'ils et elles ont reconnu le pianiste, le génial Earl Hines? Je pense qu'ils l'ont bien reconnu. Puis ils écouteront l'émission, ils compareront, mais on reconnaît tout à fait le style d'Earl Hines. Au trombone, c'était Fred Robinson, et à la clarinette, Jimmy Strong. Et selon Hugues Panassier, écoutez bien ce qu'il a écrit. Vous avez entendu ici un génie comparable au plus grand nom dans l'histoire de la musique. Ici, personne n'est en désaccord avec ça. On dit bien l'histoire de la musique. Parmi les trompettistes majeurs qui sont évoqués, il y a Buck Clayton dans ce journal Tintin. Alors, je me pose une question, peut-être qu'on peut me répondre dans le studio. Est-ce que Jean-Marie Masse était un lecteur assidu de Tintin et est-ce qu'il a pu influencer la rédaction du journal Tintin? C'est une question, je ne sais pas. Peut-être qu'on va demander la question. C'est Dominique qui peut nous répondre. Willy, toi, tu sais pas.
Certainement.
Oui. Hein? Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est Jean-Marie Masse, ça, qui a écrit au journal.
Jean-Marie était un grand ami de Buck Clayton, mais je crois que Tintin, ça ne l'intéressait pas spécialement.
Ah, zut. Bon, ben, tant pis. Ben, on va tout de même dédier notre émission à Jean-Marie Masse, parce que Buck Clayton est cité. Voilà. Bon, oui, je pense qu'effectivement, ce n'est pas lui qui a influencé le journal Tintin, mais le choix du journal me paraît tout à fait logique, et il suffit d'écouter le morceau suivant pour le comprendre. Et j'ai choisi d'ailleurs un morceau que Louis Armstrong a joué en 1928. C'est West End Blues, mais ici on est à Paris le 2 avril 1953.
Thank you.
bien sûr, il y avait une inspiration du style de l'art de Louis Armstrong, et c'est tout à fait normal, tous les trompettistes ont été inspirés par Louis, mais Buck était aussi un musicien qui avait sa propre personnalité qu'on peut reconnaître assez facilement tout de même. Alors surtout à Limoges, comme on l'a bien aimé à Limoges, il est beaucoup venu à Limoges, donc c'est vrai que c'est un musicien qu'on repère bien. Mais c'est un très 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 grand trompettiste, un trompettiste de grande classe, et je cite à nouveau Hugues Panassier, un trompette fin et délicat, qui joue avec beaucoup de sensibilité, tout est dit ici. On l'a écouté avec Red Richards qui était au piano, Mez Mezro qui était très bon à la clarinette, et à la batterie c'était Kansasfield, un de ces nombreux Américains qui trouvaient qu'en France, la vie pour les Noirs américains était un petit peu meilleure qu'aux États-Unis. Ça, je le dis en passant, on peut l'effacer après, hein, si on estime qu'il ne fallait pas le dire, évidemment. De la génération suivante, quand je dis la génération, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de technique musicale, de choix musicaux, de goûts musicaux. Le trompettiste suivant, eh bien, c'est Little Jazz, c'est-à-dire Roy Eldridge, de son vrai nom. Et le voici interprétant, ben, justement, Little Jazz, New York, 13 décembre 1953. À l'orgue, c'était Oscar Peterson. Hugues Panassier avait sur Roy Eldridge un jugement, disons, mitigé. Il lui trouvait des dons exceptionnels, un tempérament de feu, ça s'est entendu, mais aussi il trouvait qu'il cherchait trop à étaler sa virtuosité. Donc c'est aux auditrices et aux auditeurs de voir, de formuler leur propre jugement. Passons au clarinettiste. Le premier clarinettiste évoqué dans le journal Tintin, c'est un des grands pionniers du jazz, un as du style Nouvelle-Orléans, c'est Johnny Dodds. Et le voici dans un thème évoquant justement une rue de la Nouvelle-Orléans, la rue des Graviers, c'est le stomp de la rue des Graviers, donc en américain, Gravier Street, Stomp, Chicago, 5 juin 1940. Thank you. bien ici, Johnny Dodds était à la toute fin de sa carrière et toute fin de sa vie, hélas, il est mort assez jeune, mais il gardait la flamme de ses débuts. Et pour Hugues Panassier, c'est probablement avec Jimmy Noon, le représentant le plus génial du style Nouvelle-Orléans de clarinette. Et vous avez entendu, à côté de lui, Lonnie Johnson à la guitare, Preston Jackson au trombone et Natty Dominic à la trompette. Autre grand clarinettiste de cette même Nouvelle-Orléans évoqué dans le journal Tintin, c'est Barney Bigard. Il a accompagné les plus grands, comme Duke Ellington et Louis Armstrong, carrément. Je voudrais qu'on l'apprécie aujourd'hui dans le trio de Jerry Roll Morton. Écoutez Smiling the Blues Away, New York, 17 décembre 1929. Quelle est la vie d'Hugues Panassier au sujet de Barney Bigard? Eh bien, il écrit ceci. Sa sonorité limpide et fluide convient admirablement à la souplesse et à la légèreté de son jeu. Je pense qu'on ne peut être que d'accord avec Hugues Panassier. À la batterie, vous avez entendu le fameux E.T. Singleton dans ce morceau. On est toujours avec les clarinettistes et je rappelle, tout le monde le sait, Sidney Bechet a commencé par jouer de la clarinette et il en est un des plus grands représentants. Et le voici à côté d'un des meilleurs trompettistes, entre parenthèses, qui n'est pas évoqué dans notre journal Tintin d'août 62. Ce trompettiste, c'est Tommy Lanier. On est dans les années 30, on écoute Sweet Idiot, un enregistrement Victor fait à New York le 15 septembre 1932. Thank you. Au piano, il y avait Hank Denkamp, à la contrebasse, Wilson Myers et Hugues Panassier souligne, à propos de Sidney Bechet évidemment, sa puissance, sa fougue ardente, la clarté et l'aisance de son invention mélodique. Dont acte, mais c'est vrai tout ça. Passons à la catégorie trombone. Et il est assez logique de faire référence à un des pionniers du jazz, un musicien qui a forgé le style à l'origine du trombone jazz, si j'ose dire. Il s'agit bien évidemment de Kiddery. Écoutons-le dans une interprétation relativement contemporaine de la parution de notre article de référence, puisqu'on est à Hollywood le 21 décembre 1960 et le titre, c'est tout simplement « Do What Horry Say ». Qu'est-ce qu'il va nous raconter, Kiddery?
Why not do what Ori say? Babe, let's do what Ori say. Well, if you don't like the way I do, what did Ori say? I mean, what did Ori say? If you don't like the way I do, yeah, Dino Fino how? Yes, let's do what Ori say. Babe, do what Ori say. Babe, let's do what Ori say. Well, if you don't like the way I do, what did Ori say? I mean, what did Ori say? If you don't like the way I do, just Dino Fino how?
Il y avait un vocal en prime. Au piano, on a entendu Lionel Raisin. À la trompette, c'était Teddy Buckner. Et la clarinette, Bob McCracken. C'était de la pure musique New Orleans. Et remarque Hugues Panassier à propos de Kiddery. Il avait un sens magistral du jeu d'ensemble. Et c'est ça le style Nouvelle-Orléans. Un autre as du trombone, un autre as de l'instrument, sans doute beaucoup moins connu, mais à juste titre présenté dans cet article, c'est Jimmy Harrison. D'ailleurs, à propos de Jimmy Harrison, il est écrit dans notre fameux Tintin, « Malheureusement, seul Hugues Panassier possède quelques enregistrements donc, de Jimmy Harrison. » Je rassure l'auteur de cet article, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui possèdent des Jimmy Harrison dans la discothèque « Les amateurs de jazz ». C'est évident, évidemment. On en a tous ici du Jimmy Harrison. On va donc l'écouter. Il a officié notamment au sein du Big Band de Chick Webb, comme dans ce Soft and Sweet, New York, 30 mars 1931. à côté de Jimmy Harrison, vous avez pu également apprécier Elmer Williams au ténor, Rhys Bacon qui jouait de la trompette, John Truard qui était le pianiste de l'orchestre. Et pour Hugues Panassier, le jugement sur Jimmy Harrison est net, puisqu'il dit, ou plutôt il écrit, c'est le plus grand trombone que la musique de jazz ait produit. Pourtant, sa carrière a été courte. Le troisième joueur de trombone, et on finira l'émission avec les joueurs de trombone, eh bien, il s'est inspiré du précédent. C'est un très, très grand joueur de trombone. C'est J.C. Higginbotham. Et on en profite dans Saratoga Shout, enregistré à New York le 24 janvier 1930. C'était l'orchestre de Louis Russell, d'ailleurs l'orchestre qui accompagnait à l'époque Louis Armstrong. Ici, on a pu admirer l'art musical de Charlie Holmes à l'alto, d'Albert Nicolas qui était à la clarinette, ainsi que l'art de Pop Foster à la contrebasse et à la batterie Paul Barbarin. Hugues Panassier nous dit à propos de Higginbotham, ses intonations sont souvent empreintes d'une force dramatique. Eh bien, dans cette première émission sur le jazz et Tintin, on s'est rendu compte qu'au début des années 60, les références en matière de jazz était encore de qualité dans la presse, y compris la presse non spécialisée. Tintin, je rappelle, n'était pas une revue de jazz, même si le jeune amateur de jazz que j'étais à l'époque lisait aussi Tintin. Voilà. Et ça veut dire que les adolescents de l'époque pouvaient s'appuyer sur leur magazine du jeudi pour aborder cette musique qu'on pouvait entendre à la radio, à la télévision un petit peu, grâce aux disques. Je rappelle ou je signale, ça dépend à qui je m'adresse, les 45 tours de Sidney Bechet, de la firme Vogue, se vendaient comme des petits pains tout de même à l'époque. Petite fleur en tête, hein, pour tout dire. Mais il n'y avait pas seulement que ces petits disques 45 tours de Bechet qui se vendaient. Et c'était, je trouve, une époque bénie. Alors, on n'a pas écouté tous les instruments de musique. Il en manque, vous en rendez compte. Donc, on va faire une deuxième émission la semaine prochaine. On pourra aborder les saxophones, le violon en tant que tel. Parce qu'ici, on en a entendu un, mais c'était avec le fameux guitariste Django Reinhardt. On n'a pas entendu le vibraphone, tout de même, il me semble qu'il y a au moins un musicien qui joue du vibraphone et qu'on connaît assez bien. Conclusion, rendez-vous la semaine prochaine.
C'était Swing Time 2026. Une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier. Merci Alain de toutes ces découvertes.
Voilà, mais c'était une découverte grâce à Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans tout de même.
Absolument.
Et qu'on peut lire après 77 ans, je l'affirme.
Donc rendez-vous la semaine prochaine. Je suis sûr que nos auditeurs vont bien écouter la deuxième partie de cette émission.
Ben, j'espère, oui, oui. De toute façon, c'est toujours prétexte à écouter du jazz. Hein.
Absolument. Une belle journée.
Voilà,
et merci.
Et au revoir à toutes
et
à tous.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir.